Jules Janin, la soirée poétique. Nous avions été pendant 5 actes haletants sous les angoisses de la première représentation. Pendant 5 actes, muets, attentifs, nous avions lutté contre le silence et contre le bruit, contre les boutades infinies du parterre. Nous avions vu notre pauvre ami ballotté par toutes ces âmes assemblées, sans pouvoir lui porter secours, sinon par nos voeux à voix basse. Ainsi, traînés à la remorque à la suite de son beau drame, nous avons retrouvé un peu d'haleine et de calme qu'à la dernière scène. Alors seulement le parterre était vaincu. Le drame était sorti triomphant de ses langes et s'était fait homme. Ah, ce fut pour nous une grande joie, suivie d'un grand affaissement moral, comme toutes les joies extraordinaires de ce monde. Quand tout fut fini, on rappela notre ami. L'acteur jeta son nom au public et nous sortîmes triomphants. Nous autres, cependant, les amis du poète, les amis de son enfance poétique, à l'heure où son drame allait au collège et faisait des vers latins, il nous eût déplu d'assommer ce poète de nos louanges. Nous laissâmes la foule se précipiter au-devant de son triomphe, et bien sûr de le retrouver heureux, nous fûmes l'attendre en certains entresols tièdes et coins où nous avons l'habitude de nous blottir quand nous voulons être heureux entre nous et tout seuls. Ce qui avait été prévu arriva. Notre ami, chargé des éloges du dehors, nous revint plein repu de gloire. Il entra, aussi bon enfant que s'il n'eût pas fait un chef-d'œuvre, et nous autres, bons enfants comme lui, n'eûmes rien de plus pressé que de lui demander comment il se portait. Et, sur mon âme, en vrai physiologiste, je ne trouvais rien de changé dans sa personne. Sa voix n'était guère plus émue et son pouls ne battait pas plus fort. Son cœur, qui touche à l'hypertrophie, il en est mort. Était gonflé comme à l'ordinaire. « Mais c'est bien cela, Frédéric, lui dis-je. C'est bien ainsi que l'on doit revenir d'une bataille. Tu es bien digne, ami, d'avoir lutté avec ce rude jouteur qu'on appelle un parterre et de lui avoir dévoré l'orteil. Alors tu veux prendre une tasse de thé ?» Comme Fanny lui versait du thé et avec son mélancolique sourire anglais, on frappa légèrement à la porte. Vous savez, un coup léger dont la vibration se fait sentir dans le cœur. Il n'y a que la main d'une femme qui frappe ainsi. Plus le coup est léger, plus la porte est vite ouverte. La porte s'ouvrit à 2 battants, et nous vîmes entrer à la suite l'une de l'autre, Florence, Amélie, Eugénie, les 3 cousines, nos bien-aimées, qui venaient partager le grand triomphe, ou plutôt qui venaient demander leur part à nos louanges. Ce drame applaudi, ce sont elles qui l'ont fait. Il est né sous le feu de leur regard. Il a grandi au battement de leur cœur. Il a fait ses premiers pas entre leurs mains jumelles. Il a souri à leur sourire. Il a pleuré à leurs larmes, comme faisait le petit Astyanax. Soyez aussi les bienvenus, nos 3 amis. Et maintenant que nous sommes là, réunis tous les 7, vieillards de 24 à 25 ans... Une larme coulait encore dans les yeux d'Eugénie. Oh, dit-elle, quel bonheur de pleurer! Que je hais le drame en loge découverte, à la clarté du gaz, sous les regards de la foule, en public, le drame pour tout le monde, et que cela est fatigant et douloureux d'arriver à des émotions pareilles, en robe serrée, les cheveux bouclés. Non, non, je n'ai pas reconnu notre drame. « Ami Frédéric, j'ai trop pleuré pour le reconnaître. J'ai trop pleuré en dedans pour m'y plaire. J'ai trop contenu mon émotion pour m'être amusé. Et maintenant, ne causons pas, si vous voulez, pleurer. » Or, la pauvre enfant, blonde et triste, eut volontiers sangloté jusqu'au lendemain. Mais elle est trop nerveuse et trop frêle pour que nous lui permettions de s'abandonner à ses subites douleurs. Cette âme a besoin d'être étayée de 1000 manières si nous ne voulons pas qu'elle succombe en proie à l'assaut de ses passions. Prosper, qui la connaît et qui l'aime, ne lui permit pas d'essuyer une seconde larme. Il lui arracha son mouchoir. « Je m'étonne, Eugénie, lui dit-il, que toi qui es né un si grand poète et si grand artiste, tu te sois amusé à pleurer ainsi, à un conte en prose, à un drame en langue vulgaire. Ne vois-tu pas qu'au lieu de pleurer, tu devrais adresser à M. Frédéric de sévères paroles pour n'avoir pas écrit sa tragédie en vers. » La dissertation littéraire une fois entamée, Eugénie, qui n'avait plus de mouchoir, essuya sa dernière larme avec sa main. Frédéric baisa la main humide d'Eugénie. Et nous voilà tous, parlant pour ou contre le drame en vers et nous jetant dans toutes les définitions sur la vérité dramatique, une mode qui nous est venue quand nous n'avions plus de drame nulle part. Chacun de nous parla et parla très bien de cette hypothèse. À force de bien parler, personne à la fin ne s'entendit plus. Heureusement qu'après 1000 divagations charmantes, Eugénie, par 1000 détours, nous ramena au point de départ. « Oui, dit-elle, Prosper a raison. Avec un si beau sujet d'amour, c'est un meurtre de n'avoir point parlé en vers. Le vers est le langage de la possession, la voix de l'amour qui souffre et de l'amour heureux. Le vers, c'est le bien-dire et le vrai-dire. La poésie est la langue des dieux et la langue des femmes depuis qu'il n'y a plus de dieux. N'est-il pas vrai que tu es de mon avis, Florence ?» À ces mots, Eugénie regardait Victor. Victor baissa les yeux. Il faut vous dire que nous vivions dans une amitié si parfaite et que nous nous comprenions si bien et si vite que chacun de nous avait deviné, et cela depuis longtemps, les tendresses réciproques de Florence et de Victor, qu'ils croyaient si bien cachées dans les plus profonds et les plus chastes replis de leur cœur. L'histoire de Frédéric et d'Eugénie s'était manifestée il y a 6 mois dans le drame de Frédéric. Émilie était parmi nous, assistante avec un intérêt égal à nos luttes obstinées autour des petits mystères de l'esprit et du cœur. Quant à Fanny, elle n'avait pour nous tous qu'un sourire, une âme, une vie. Elle était notre frère, notre ami, notre sœur, notre enfant, enfin elle était Fanny. Je vis tout de suite, et d'un coup d'œil, comment d'un drame en prose fait pour la foule, applaudi par la foule, nous pourrions passer à quelques drames en vers, faits pour nous, par nous, applaudis, admirés par nous seuls. Je suis de l'avis de Prosper et du vôtre, Émilie. Le drame doit être écrit en vers. Avec cette différence, il y a le drame de la foule et le drame de quelques-uns. Parlez, s'il vous plaît, parlez à la foule en prose. Parlez-lui le premier langage venu, non pas le plus simple, mais le plus facile à entendre. Le drame intime, le drame du cœur, le drame personnel appellent inévitablement la forme poétique. Et puisque nous sommes réunis, je suis sûr, vous, Amélie, et vous, Florence, que, si vous vouliez, vous avez en réserve, en un coin de votre mémoire, plus d'un bel acte de tragédie écrit en vers, et dans lequel vous jouez le beau rôle. Oh, ça, voulez-vous que nous essayions de le construire, ce drame enfoui dans vos souvenirs? Vous êtes là, 4 jeunes et belles. Faisons un drame en 4 actes. Choisissez-le, et toi, Florence, commence, si tu veux commencer, avec la permission de Victor. Florence regarda Victor. Il fut consentant à sa poésie. Alors, d'un ton de voix si doux qu'à peine on l'entendait, elle parla en stances égales comme fait un enfant qui s'essaye à marcher. Je t'aime, encore ce mot tu ne peux t'en défendre, car ce n'est pas d'espoir que je te viens parler. Mais je souffre, à tes pieds laisse-moi donc répandre des larmes pour me consoler. Je t'aime, tu le sais, lorsque dans ton âme cet amour dévorant arrive malgré toi, tu mets à le nier ta vanité de femme. Je te dirai pourquoi. D'apprendre un peu ton cœur, moi j'ai fait mon étude. Chaque mot que j'entends, le geste que je vois, se grave dans mon âme et dans ma solitude, j'observe ton geste et ta voix. Ce n'est pas quand la danse entre nous passagère sème avec un regard ou l'espoir ou les pleurs, lorsqu'avec tes deux sœurs la musique légère vous balance comme des fleurs. Ce n'est pas quand ta main sur les touches dociles réduit toute mon âme au soin de t'écouter, comme si j'entendais dans leurs accords faciles mon bonheur que tu as chanté. Il est d'autres séjours que l'âme entière habite, de secrets mouvements que l'on n'a pas voulu, des regards qu'on n'a pas détournés assez vite et qu'un regard a déjà lus. Oh, la saine raison sous de vives paroles, oh, le regard plaintif près d'un rire moqueur, ta douce voix émue avec des chapitres sans frivoles dit si bien ton âme à mon cœur. Ta belle âme est en feu, mais ton esprit de glace, l'harmonieux aveu d'un amour inventé te touche, et tu souris d'un pauvre amour sans grâce, aussi nu que la vérité. Or, celui-là sera ton maître et ton idole, qui chantera le mieux son amour éclatant, et moi, qui donnerai ma vie à ta parole, tu me diras « va-t'en ». Et là, je ne suis rien qu'un malheureux qui t'aime, créé pour faire un ombre arrêté par le sort, ignoré dans ma vie et qui ne sait pas même si quelqu'un apprendra ma mort. Et quand elle eut fini, la pauvre enfant, oh, elle fut cachée sa tête dans le sein de Victor. Il y eut alors un moment de silence charmant. Jamais les premières scènes de l'Iphigénie de Racine ne nous avaient remué comme ces simples vers, exposition touchante d'un amour qui commence. Un instant après, je repris la parole. Ceci est bon pour le premier acte, Florence. Il nous faut un nœud à l'action qui s'engage. Alors que l'un de nous, s'il l'ose, ajoute une élégie à ses vers, tout rempli de promesses. Ce sera moi, dit Émilie. Aussi bien je souffre, je suis en pleine de ces vers que j'ai reçus ce matin. À ces mots-là, sensitive, jetant de côté ses longs cheveux noirs, nous récita ces vers d'un ton inspiré. Que je me suis trompé cette première fois où je vis ton regard, où j'entendis sa voix. Je me dis, dans mon âme où tant d'amour respire, sa voix et son regard n'auront aucun empire. Non, ce n'est pas ainsi que mes jeunes amours ont rêvé d'être aimés qui doit avoir mes jours. Je ne sais où je pris cette folle assurance, mais de ces traits légers, la fragile apparence, son timide regard, mais qui ne cache rien, son frivole enjouement, le piquant entretien, sa voix, dont la fraîcheur à tant de calme uni, ignore de l'amour la plaintive harmonie, tout rassura mon cœur, qui ne put concevoir avec tant de faiblesse un absolu pouvoir. Dans son corps frêle et doux qu'un seul regard embrasse, l'enfance à sa jeunesse a conservé sa grâce. Je crus que mon âme forte à côté d'un enfant, et sans me soupçonner, je vins la voir souvent. Mais un jour, que soudain je la trouvai légère, d'oublier dans sa main une main étrangère, que je voulus m'en plaindre, ne pus m'exprimer, en me sentant souffrir, je me sentis l'aimer. Et quand elle eut fini, « Oui, reprit-elle, voilà ce qu'il m'a écrit lui-même ce matin, l'ingrat, pour qui je souffre. Oh, vous aviez raison de le dire, c'est un acte bien cruel que ce second acte de l'amour. » Arthur, qui n'avait rien dit, « Consolez-vous, ma belle Émilie, en nous chantant « Chagrin d'un jour ». Le drame que vous jouez est encore peu compliqué, et le dénouement est si loin. Je suis plus malheureux que vous. Mon troisième acte approche. Il y a tant de tragédies qui n'ont que trois actes et qui sont complètes. » Ayant ainsi parlé, il se leva et, s'appuyant sur le fauteuil d'Amélie, penché sur elle, il récita les vers suivants d'une voix triste et douce en homme qui n'a plus d'espoir. « Eh bien, oui, je suivrai tes ordres absolus. Ami, je l'oublierai, mais ne m'en parle plus. N'en dis rien. Quand ta voix la dénigre et l'outrage, ne l'aime pas moins et souffre davantage. Je sais tous ces défauts dont tu vas me parler. Quand ta froide raison croit me les révéler, tu me dis que les torts dont mon amour l'accuse. Je sais tout, mais je l'aime, et voilà mon excuse. Est-ce à toi que l'amour a volé si souvent, a demandé pourquoi, par quel art décevant, ses traits, sa voix, son nom font frémir tout mon être? Pour avoir insensé voulu la méconnaître, combien amèrement j'ai subi son pouvoir. Non, 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 tu ne conçois pas, tu ne peux concevoir de ces jeunes attraits l'irrésistible empire. C'est un air enivrant qu'autour d'elle on respire. Rappelle-toi le soir, quand le jour meurt dans l'air, cet horizon d'automne où vibre un pâle éclair, dans l'ombre transparente où dorment les prairies, l'astre lointain flottant sous des formes chéries, l'eau tiède des ruisseaux s'exhalant dans les airs, les oiseaux dans les bois emportant leur concert, et la brise du soir de son aile sonore agitant les parfums que la nuit fait éclore. De même qu'à cette heure, il semble que parfois, de l'ange qui nous garde, on entend de la voix, et que tout plein du charme où notre âme s'enivre, sans concevoir sa joie, on soit heureux de vivre. De même quand ses yeux, sur mes yeux arrêtés, versent jusqu'à mon cœur leur vivante clarté, d'un vol doux et brûlant sur mon âme affaissée, je sens flotter son âme et planer sa pensée. « Ça devient triste, dit Eugénie. Vous êtes trop poète et trop dramatique ce soir, mes maîtres. Si vous m'en croyez, là s'arrêtera notre drame, le drame commencé de nos amours de 20 ans. Moi qui vous parle, n'ai-je pas dit mon cinquième acte déjà 2 fois ? Il est vrai, oui, que je suis uni à un poète, messieurs, à un poète tragique. Voulez-vous sauter à pieds joints, le 4e acte est passé au 5e ? « Allons-y gaiement, disait Talma. » À ces mots, Frédéric se leva. « Oh, je te les défends, dit-il, Eugénie. Non, je vous en prie, Eugénie, rendez-moi mon 5e acte. » Mais elle, d'un ton sévère, « Puisque vous avez osé l'écrire, il faut l'entendre. Nous sommes ici le public assemblé et nous jouerons notre 5e acte malgré l'auteur. » Croyez-vous donc que ce soir, il y a 3 heures, si l'envie nous en avait pris, vous auriez eu le droit d'arracher votre tragédie inachevée aux mains du souffleur ? Une fois lancée, il faut que la tragédie aille son but. Le partenaire parterre seul a le droit de l'arrêter. Nous sommes ici le parterre. Écoutez donc mon 5e acte. Alors elle nous lut d'abord d'un ton grave et bientôt d'un accent pénétré. Le morceau suivant, véritable 5e acte d'un roman, qui n'était pas prêt de finir. Jeune, j'ai quelquefois rêvé que la fortune, dans son vol par un autre ardorment épié, dédaignait le puissant dont le cri importune, et sur mon seuil désert venait peser le pied. Alors c'était le luxe où le riche se noie. Des fêtes dans les nuits, des fêtes dans les jours, les chevaux, les banquets, les salons de soie, et sur un lit doré les plaisirs sans amour. La haine dont le bras me frappe sans relâche, en des moments amers m'a fait rêver aussi, que de mes ennemis je tenais le plus lâche, étendu sous mes pieds, criant « grâce et merci ». C'est un sombre plaisir à cette heure funeste, de voir couler des pleurs pour ceux qu'on a versés, et d'appuyer sa main sur le cœur qu'on déteste pour y sentir la peur qui bat à coups pressés. Puis souvent, écoutant la douce fantaisie qui sème mes longs jours d'harmonieux travaux, je rêve que je vois la belle poésie plus belle me sourire entre tous mes rivaux. Et la gloire se lève à ma forte parole. Les hommes devant moi courbent alors leur front, et sur le mien où brille une sainte auréole. Pour ne plus l'oublier, ils apprennent mon nom. Tous ces biens sont rêvés, où je ne veux plus croire, pour qui j'eus tant de vœux, d'espoir et de regrets. La richesse aux mains d'or, la vengeance et la gloire. Ô mes chers amours, je vous les donnerai. Je les donnerai tous pour un mot de ta bouche, qui, tout bas, pour moi seul, doucement prononcé, me dirait « Je te crois et ta douleur me touche. Tu m'aimes, tu dois bien souffrir, pauvre insensé. Ou bien, si tu craignais que ton regard de flamme ne dévora ma vie et mon âme à son feu, et si, tremblante encore en ta pudeur de femme, d'un mot ou d'un regard tu redoutes l'aveu, reste muette et cache une larme essuyée. Détourne ton beau front et tes beaux yeux de moi, mais que du moins ta main sur la mienne appuyée la presse doucement et dise « Je te crois ». Et si des pleurs brillants sur ta vue obscurcie, un jour tu me disais en me tendant la main « Ami, je suis contente et je te remercie. Ce jour serait ma vie et ce mot mon destin. » Voilà toute notre soirée. Ainsi nous avons pris notre revanche avec le parterre, en nous passant du parterre, en nous passionnant sans lui, en versant de douces larmes, sans avoir besoin de ses clameurs. Chacun de nous joua son rôle en ce drame intime, et moi, qui n'étais que l'auditoire, avais-je rien de mieux à faire qu'à retenir ces vers pleins de jeunesse et d'amour ?